La musique.
Caravana de maximum.
Je me fous du.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour
vive le soleil.
Vive les oreilles.
Vive.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde. Radio-libertaire.net, par exemple, à Sedan, dans les Ardennes. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Nous avons le bonheur, le plaisir de recevoir aujourd'hui Félicie Baselaire. Bonjour Félicie.
Bonjour Christophe, merci pour ton invitation.
Alors, Félicie, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on vient d'écouter ?
Alors, on vient d'entendre Hits, qui est un solo pour contrebasse, c'est une pièce de ma composition personnelle. Ben voilà, c'est une pièce dans laquelle je frappe ma contrebasse dans un rythme régulier et à différents endroits. Enfin, disons que je parcours un petit peu ma contrebasse comme ça à la recherche en fait des harmoniques voilà qui sortent de la basse. Voilà, c'est une pièce que quand je la joue, je cherche un accord en fait un peu particulier. Je change l'accord de ma contrebasse selon aussi l'espace dans lequel je me trouve pour voilà, à la recherche des harmoniques, justement, des battements, etc., qui vont sortir aussi selon là où je frappe. Voilà. Et cette pièce, en fait, elle est sortie il y a un an ou deux sous le web label Remote Resonator, qui est le web label de Pierre-Antoine Badarou, Bertrand Denzler et Antonin Gerbal. Voilà, donc elle se trouve sur Internet.
Est-ce que tu peux nous parler de ta formation musicale ? Tu vois, ma question, elle n'est pas très originale. Hein, mais moi, j'aime bien savoir les études musicales que tu as faites. Et pourquoi je pose cette question-là ? C'est, j'aime bien savoir comment ça dévie, comment tu vas dans les musiques bizarres.
Mm-hmm. Alors, en fait, j'ai un parcours très classique. Hein. J'ai commencé par le violoncelle à l'âge de 6 ans. Voilà, en école de musique, etc. Donc c'était tout ça voilà, dans des études classiques. Et après avoir passé mon DEM de violoncelle, je me suis mise à la contrebasse, etc. Et puis voilà, j'ai poursuivi comme ça voilà, jusqu'en master de contrebasse. Après j'ai passé même le certificat d'aptitude. Mais en fait, parallèlement à des études comme ça institutionnelles de conservatoire très classiques, je me suis intéressée à l'improvisation et disons aux formes un petit peu voilà, différentes, je sais pas, vers 17-18 ans. Et ce qui a été vraiment marquant pour moi, c'est la découverte de Fluxus et de cet univers. Ah oui. En fait, et ça a vraiment changé ma vision des choses, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu envie, en fait, de caricaturer un petit peu le monde de la musique classique, ou en tout cas ce milieu duquel vraiment je venais, quoi. Et voilà. Et c'est là où je me suis mise à faire des performances, et voilà, où je me suis mise un peu sur scène à faire des choses décalées, quoi, on va dire.
Oui, on y reviendra sur les performances, hein, si tu veux bien. Moi, j'ai vraiment des trucs de musicien. Tu vois, par exemple, tu joues de la contrebasse. On a entendu là, ce qu'on a entendu, c'est de la contrebasse. Et la question que je me pose est, est-ce que tu joues de la basse électrique, par exemple ?
Alors, j'en ai joué un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. J'ai eu un groupe il y a quelques années. Mais alors, vraiment, voilà. On a même pas donné de concert, mais en tout cas, on s'amusait bien. Mais non, en fait, j'ai jamais vraiment joué de basse électrique. J'ai toujours joué des instruments acoustiques, en fait. Enfin, en tout cas, violoncelle et contrebasse, ouais, toujours. Voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une tentative d'amplifier ma basse et aussi d'amplifier mon violoncelle, mais non, j'ai jamais joué de basse électrique, vraiment, quoi.
Alors, après, j'ai une question. J'ai l'impression. Alors, je pense que c'est une impression fausse, mais j'ai l'impression que tu joues du violoncelle dans les projets plus écrits. Mmh. Et peut-être de la contrebasse dans les choses les plus improvisées. Est-ce que je me fourvoie en te...
Non, ben non, pas vraiment en fait. Enfin, c'est vrai. C'est vrai que je joue du violoncelle dans l'ensemble d'os. Enfin, j'ai joué du violoncelle dans l'ensemble d'os. Dans l'Oncem, je joue surtout du violoncelle. Il y a peut-être une fois où j'ai joué de la contrebasse avec l'Oncem, mais vraiment, ça reste exceptionnel. Il y a pas longtemps, j'ai joué en duo avec Daichi Yoshikawa pour l'anniversaire de l'atelier tampon de Marc Fèvre, ah oui. La voix moderne. Là, j'ai fait un duo et c'était vraiment improvisé. Et justement, j'avais mon violoncelle amplifié. Mais sinon, en effet, non, c'est vrai que pour ce qui est plus personnel ou créatif, je joue plutôt de la contrebasse, en fait.
Comment t'expliques ça ?
Peut-être parce que justement, le violoncelle étant mon instrument de départ avec lequel j'ai vraiment étudié la musique, enfin classique, la contrebasse aussi, mais disons que le violoncelle, ça a été, je sais pas, mon premier instrument comme ça. Et la contrebasse m'a permise aussi, moi, de m'ouvrir en fait sur d'autres choses en fait. La contrebasse, quand même, le passage du violoncelle à la contrebasse, c'était un moment fort aussi pour moi, parce que ça a été d'autres rencontres, des rencontres avec, des univers musicaux différents, etc. Et je me sentais plus libre aussi, parce que j'avais moins cette attache, peut-être de l'enfance, quoi, je sais pas. Mais j'expliquerai ça comme ça, peut-être.
Ouais, j'aurais bien aimé que tu approfondisses justement ce passage. Qu'est-ce qui déclenche ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus envie de suivre les études ? Tu vois, enfin, Art du Libertaire, ça nous intéresse, nous.
Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est. Quand j'ai changé d'instrument, que je me suis mise à la contrebasse, j'ai continué en fait les études classiques. J'ai pas, en tout cas, j'ai pas arrêté, mais disons que, je sais pas, dans le milieu du violoncelle, si je peux dire ça comme ça, et dans le milieu classique, il y a quelque chose de très, en tout cas à mon époque, il y avait quelque chose de très dur, quoi. Soit on était dans la lignée du classique. Et dans ces cas-là, on passait le CNSM, etc. Machin. Soit, en fait, moi, j'ai ressenti comme ça. Et du coup, je sentais bien que c'était pas tout à fait ma voie, le milieu classique. Et je cherchais. Et à cette époque-là, je commençais aussi à travailler avec des comédiens, etc. Et du coup, j'avais envie d'avoir... plusieurs instruments aussi à ma disposition. Je commençais aussi à avoir un rapport un peu à la scène. Et du coup, je trouvais que la contrebasse, c'était aussi un instrument qui était intéressant. Parce que c'est gros, parce que c'est un instrument qui prend une certaine place, quoi. Et du coup, voilà. Et la contrebasse m'intéressait bien évidemment aussi pour les sons incroyables que ça peut sortir, quoi. Et donc, voilà. Donc, c'est aussi pour ça que je suis passée à la contrebasse. Et voilà, mais j'ai continué quand même les études classiques en contrebasse. Ça m'a pas quitté, on va dire.
Ah, très bien, très bien. Ouais. Alors, et comment es-tu entré dans l'ONCEM ? Tu vas voir ma question. Quel argument esthétique Frédéric Blondy a-t-il bien pu employer pour te convaincre d'y participer à l'ONCEM ?
Alors, quand Frédéric Blondy m'a contacté, c'était vraiment au tout début... l'ensemble n'existait pas, en fait. Enfin, il était en train de le créer avec Églantine de Boissieu. Enfin, c'était vraiment le début. Donc, Fred avait fait appel à comme ça, plein de musiciens, quoi. Et moi, ça m'a vraiment intéressé. Je trouvais ça fou comme projet au début. Je me suis dit, waouh, c'est dingue. C'est complètement dingue de faire ça. Et puis voilà, au début on improvisait, Frédéric il proposait des sortes de compositions et c'était vraiment intéressant parce que c'était plein de discussions, plein de rencontres aussi pour moi parce qu'il y avait beaucoup de musiciens que je connaissais pas à l'époque. Et donc c'était assez effervescent comme ça d'idées de plein de choses, quoi.
Tu sais que nous, on parle assez régulièrement de l'ONCEM parce qu'on reçoit les musiciens ou on parle du Festival Crac en septembre. Mais pour autant, je pense qu'il faut quand même, pour nos auditeurs, resituer quel genre de répertoire vous jouez. Qu'est-ce que c'est que l'ONCEM ? Est-ce que tu peux nous resituer ça ?
Alors l'ONCEM a deux facettes. Tout d'abord celle où c'est un ensemble qui joue des compositions. Donc de musiciens compositeurs comme Eliane Radig, Stéphane O'Malley, Jérôme Nottinger, Peter Ablinger, Burkhard Bains, etc. Donc qui ont écrit des pièces vraiment pour l'ONCEM. Donc ça, c'est une grande partie de notre travail. Et puis, il y a l'improvisation, qu'on travaille aussi également. Voilà, on travaille sous forme de résidence, sous forme de... Voilà, donc on a ces deux facettes, on a ces deux facettes-là.
On y reviendra à ça. Oui, alors effectivement, moi j'avais vu à Saint-Méry, je ne sais pas si tu te souviens de ça, l'ensemble Grill. Tu vois ce que c'est le Grill ?
L'ensemble canadien ?
Ouais, québécois.
Québécois.
Et,
ouais.
Et alors eux, ils ont un jeu, justement, qui est dans l'improvisation, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de jeux, je ne sais pas comment dire d'autres, de trucs ludiques, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Et j'aimerais savoir comment vous abordez dans l'ONCEM, quand même une trentaine de musiciens, je pense, si pas plus. Mm-hmm. Comment vous abordez l'improvisation ?
Je pense qu'on est, chacun à la recherche de postures d'écoute. Et alors après, je peux parler qu'en mon nom, parce que voilà, mais je pense qu'on... Enfin, j'ai la sensation, en tout cas, qu'on cherche une forme peut-être d'homogénéité dans la matière. Et en tout cas, dans les discussions aussi, ce qui apparaît, c'est ça, quoi. De chercher à comprendre comment chacun écoute, comment chacun agit, de manière voilà, à faire une musique qui soit... qui soit tissée, quoi, entre nous, qui soit bien... quand je dis homogène, c'est pas forcément dans le son, mais en tout cas qui, voilà, où on sait où sont les autres, on sait un peu ce que, voilà, comment les autres ont envie aussi de, voilà, de réagir, comment les autres écoutent. J'ai la sensation, voilà, nous on parle beaucoup de ça, de posture, d'écoute, mais et de jeu.
Oui, mais comment vous travaillez, c'est ça le, c'est comme tu dis, des discussions, des ou des situations.
Ouais, ouais, il y a des discussions et puis il y a aussi des moments de jeu, bien sûr. Des moments de jeu, des moments où on joue. Après, on parle de ce qu'on a fait. Voilà, Frédéric, bien évidemment, nous fait des retours et on en parle aussi beaucoup avec lui. Et en fait, on travaille un peu de différentes manières, en fait. Mais l'ONCEM a fait une résidence il y a au mois de février. Et moi, j'y étais pas, par exemple. Mais voilà, j'imagine qu'ils ont beaucoup joué et qu'ils ont aussi beaucoup parlé. Et voilà.
Comment se prennent les décisions dans la SEM ? Est-ce qu'il y a un directeur artistique qui serait Frédéric ou est-ce qu'il y a une prise de décision ? Je dis ça notamment parce qu'il y a, pas mal de compositeurs qui composent. Je pense qu'ils composent pour vous d'ailleurs.
Hein. Ah oui, c'est vraiment, les pièces sont composées, oui, pour nous, ça c'est clair,
ouais. Ah ouais. Donc du coup, qui décide de ça, en fait ? Comment ça se passe, en fait ? Est-ce qu'il y a une direction collective ?
Oui, il y a ce qu'on appelle le comité artistique de l'ONCEM, qui change tous les 2 ans, à peu près. Et donc, pendant ce comité, y a à peu près 6 musiciens de l'ONCEM qui en font partie.
Ah oui, ok.
Et voilà, plus toute l'équipe, Églantine, Fred, Nina... Léna, etc. Et en fait, Frédéric Blondy fait des propositions, le comité fait des propositions, ça discute de choses et d'autres, etc. Et c'est à ce moment-là que les décisions se prennent. Ils se réunissent assez régulièrement, en fait, pour décider un peu de l'avenir de l'ONCEM.
Alors, parallèlement, oui, d'ailleurs, à l'ONCEM, tu es l'initiatrice d'un ensemble.
Oui.
Je crois on dit comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de ça, nous dire comment tu as décidé de jouer avec les cordes de l'ONCEM, puisqu'il s'agit de ça, je crois.
C'était pendant le travail de la pièce d'Eliane Radig, où voilà, on a beaucoup répété entre cordes, et j'ai eu envie, en fait, de proposer... à toutes ces magnifiques cordes qu'on travaille ensemble, en fait. Et pour ça, et voilà. Et donc, on a commencé à travailler. Et j'avais pas envie qu'on improvise. J'avais vraiment envie que notre projet, ça soit de jouer des pièces de musiciens, justement, improvisateurs, compositeurs. Voilà, j'avais vraiment envie de rester plutôt dans un travail, enfin, d'interprétation certes ouverte, mais plutôt dans un travail d'interprétation. Et donc j'ai demandé à Bertrand Denzeler d'écrire une pièce, j'ai demandé aussi à Hannes Lingens, un musicien allemand, j'ai demandé à Patricia Bossard aussi.
Ah oui, oui.
Et puis j'ai moi-même composé une pièce, et puis il y a aussi Léo Duplex qui a composé une pièce récemment, et Taku Sugimoto. Voilà. Et voilà. Donc, alors maintenant, toutes les cordes de l'Onsem ne font pas tout à fait partie de l'ensemble. Et puis des fois, bah voilà, enfin c'est aussi selon un peu les, enfin bien évidemment les dispos de chacun, etc. Et récemment, en fait, j'ai demandé à deux musiciennes de nous rejoindre, en fait.
Qui sont pas de l'Onsem.
Oui, juste pour un concert. J'ai proposé à Rachel Bader et à Soisy Clobra de jouer avec nous. Voilà. Alors on peut écouter la composition que j'ai écrite pour Co, qui s'appelle Que je fasse quelque chose. Et voilà, ça a été enregistré le 1er mars au Temps du Corps. C'est l'atelier Tampon Nomade, Marc Fèvre, qui avait organisé le concert.
Très bien, mais on écoute ça. Radio Liberté, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde. Radio-libertaire.net, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec aujourd'hui Félicie Baseler. Alors Félicie, j'ai une question un peu par rapport au compositeur. Je sais que tu as joué du répertoire, alors pas classique, mais contemporain, genre Chelsea ou, mm-hmm. ou Cage. Ou, voilà. Mm-hmm. Je voudrais savoir, est-ce que c'est toujours d'actualité ça? Est-ce que tu continues ça ou c'est terminé?
Alors le répertoire, entre guillemets, contemporain, enfin oui, oui. Non, ça un peu institutionnel, enfin non, ça j'en joue plus du tout. Par contre, là je joue, enfin j'ai joué et je continue d'ailleurs toujours des pièces que des musiciens, improvisateurs, compositeurs m'écrivent en fait. Et donc voilà, il y a Dincis, Bertrand Denzler, Patricia Bossard, Laurent Pascal, Pierre Borel aussi qui m'ont écrit des pièces. Pierre-Antoine Badarou aussi, voilà, il y a Karim Haddad aussi, enfin plusieurs voilà, musiciennes, compositeurs, compositrices qui m'ont écrit des pièces. Ouais.
Donc ce sont des musiciens que tu côtoies en fait, là tu me dis non, c'est, mm-hmm. c'est des gens que je vois, qu'on
ouais,
voit.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et ma question c'est, qu'est-ce que ça implique de composer pour Félicie Baseler? Tu vois, quel est le cahier des charges, entre guillemets, hein, entre beaucoup de guillemets, quel cahier des charges pour les compositeurs en termes peut-être techniques ou esthétiques ou, tu vois?
Oui, alors moi je leur demande rien, en tout cas quand la question arrive, en tout cas quand ils se posent de composer quelque chose pour moi, soit je demande, soit ils me le proposent, c'est vraiment libre en fait, il y a pas de non ça implique pas, enfin là comme ça je sais pas, mais en tout cas ce qui est intéressant pour moi et les fois où j'ai demandé par exemple à Bertrand Denzler mais aussi enfin à Patricia Dincis, Pierre-Antoine, enfin c'est ça m'intéresse en fait de rentrer du coup dans l'univers en fait de la personne et de mieux comprendre, de mieux saisir en fait leurs enjeux musicaux en fait et leurs problématiques en tant que musicien, en tant que compositeur, improvisateur. C'est moi c'est ça qui m'intéresse en tout cas.
Ouais.
Et puis alors, ça m'apprend aussi d'autres choses sur mon instrument. Ça m'apprend des nouvelles, parfois des nouvelles techniques, des nouvelles façons de jouer, des nouvelles manières d'écouter aussi.
Alors, je pense que dans les compositions, c'est pas des compositions. Enfin, je sais pas, mais il me semble, moi, j'ai cette idée-là. C'est pas des compositions, des partitions tout à fait, tu vois, établies.
Non,
il me
semble
qu'il y a une
sûr.
Part de liberté qui peut être proposée dans ce genre de musique. Et je voudrais que tu nous expliques ce qu'on appelle, que tu nous parles un peu ce qu'on appelle partition. À instrumentation libre, j'ai lu ce mot-là, sur cette formulation-là sur Internet.
Mais en fait, la manière dont les différentes partitions justement que j'ai pu voir, en tout cas, bah, par exemple avec Bertrand, c'est du texte. C'est des paragraphes, quoi, des petits paragraphes de texte. La composition de Dincis, l'épaisseur innombrable, c'est deux sortes de... deux propositions de patterns et je dois choisir en fait.
Pattern. Est-ce que tu peux.
Alors par exemple un pattern, il y a un pattern rythmique, c'est-à-dire, je sais pas, une note courte, une note longue, une note courte, par exemple. Mmh. Ça c'est, je vais appeler ça un pattern quoi. Mmh. Et donc voilà, donc j'ai une page entière remplie de patterns rythmiques. Et puis j'ai une page avec différents systèmes d'accords. Et donc je dois combiner les deux. Donc c'est à moi de choisir voilà, quel accord avec quel pattern, etc. Ensuite, il y a la pièce de Patricia qui s'appelle Echo, qui était assez composée, assez organisée aussi dans le temps, avec des timings assez précis, de choses que je devais faire à des moments précis. Après, la partition, elle est... voilà, il y avait une partition assez claire. Et avec aussi des moments d'improvisation. Et puis après j'ai eu d'autres, comme Laurent Pascal par exemple, lui j'avais un casque sur les oreilles, et je devais reproduire des choses que j'entendais. Par exemple, enfin voilà, la pièce de Pierre-Antoine aussi, c'était une partition que je jouais sur une bande, ouais, avec voilà, plus ou moins des notes écrites avec c'était assez, assez chouette. Et puis la Karim Haddad, donc qui est lui, c'est il m'a écrit une vraie partition. Lui, c'était vraiment une pièce très écrite, ouais, de manière très classique.
Ah ouais, voilà. Ouais. Mais justement, je voulais savoir qu'est-ce qui t'intéresse dans parce que les auditeurs ont bien compris que on n'a pas affaire à quelqu'un qui joue des partitions comme on a le l'habitude de l'entendre, mm-hmm, si tu veux, tu vois. Hein. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, parce que notamment, je te demande ça parce que je sais que tu es improvisatrice également.
Mm-hmm. Mais là, du coup, la manière d'écrire, en tout cas de me proposer une musique à jouer, elle implique plein de choses en fait, et elle révèle en fait beaucoup de choses aussi de la musique qui va se jouer en fait. Et donc voilà, donc c'est intéressant en fait. Et moi, ça m'intéresse vraiment aussi de voir comment la musique en fait peut se transmettre, ou comment les concepts peuvent se, enfin voilà, se partager. Et puis après, il y a aussi tout le travail qu'il y a aussi avec le compositeur. Enfin, on discute beaucoup, quoi. On discute beaucoup, et c'est un travail, ouais, assez...
Moi, j'aurais bien voulu que tu nous... Alors, je sais pas, on va écouter une pièce de Bertrand Denzler. J'aurais bien voulu que tu nous décrives des choses un peu pour qu'on comprenne bien ce qui est à l'œuvre. Mmh. Un processus, tu vois, très concrètement, tu vois, tu parles de des trucs précis de timing, et tu vois ce que, mmh, tu vois ce que je veux dire, que tu nous décrives un peu une pièce, comment ça se passe, quoi, qu'est-ce qui est...
Mais peut-être que, je sais pas, on peut écouter peut-être la, ouais, pièce de Bertrand, ouais, et je peux en parler après.
Très bien, ouais, très bien. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs, radio-libertaire.net. Nous sommes dans l'émission Les Oreilles Libres avec Félicie Bazeler. Alors, Félicie, une de tes activités est ce qu'on appelle la performance. Alors, peut-être le mot déjà, moi j'aime pas trop, mais bon, voilà, on va dire ça comme ça. Et je voudrais savoir si ce que tu fais dans ce domaine-là est toujours en lien avec l'instrument de musique. Est-ce que c'est imaginable de voir une performance de Félicie sans contrebasse ?
Eh bien, je crois pas, non. Ouais. Non, c'est important. Ouais, mon instrument est important. C'est important pour moi de l'avoir parce que justement, soit je m'en sers pour... créer de la tension, par exemple, parce qu'il est là. Est-ce que j'en joue, est-ce que je vais en jouer, est-ce que je ne vais pas en jouer. Il y a toujours un peu cette ambiguïté aussi de savoir est-ce que je suis vraiment contrebassiste ou pas, en fait. Voilà, des fois je prends la contrebasse, mais en fait j'en joue pas, je m'en sers plutôt comme un objet ou je sais pas, je fais voilà je et puis mais non, c'est important pour moi, ouais, d'avoir la contrebasse. La contrebasse.
Oui, c'est vraiment. Mais ouais. Ça va être difficile parce que j'aimerais pas trop décrire en fait ce qui se passe.
Ouais.
Parce que ça perd un peu du coup d'effet de surprise, quoi. Mais du coup je vais être un peu lâche. J'aimerais bien que tu en parles toi-même. Donc du coup tu diras ce que tu as envie de dire, quoi.
Ouais. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse dans ce qui m'intéresse de faire, moi, dans les performances, c'est ça vient vraiment de ce que j'expliquais avant, par rapport à Fluxus, par rapport au milieu classique, etc. Donc, en fait, il y a un moment où j'ai eu envie, par exemple, de jouer de la contrebasse en maillot de bain. Je trouvais que c'était vraiment complètement absurde de se retrouver sur une scène en maillot de bain en train de jouer de la contrebasse, par exemple. En fait, je cherche des espèces de points comme ça, complètement absurde et vraiment décalé, qui soit se font pas aussi comme qui se font pas ou qui ont pas vraiment lieu d'être, en fait. Et puis après, j'ai été beaucoup aussi inspirée, bah, par exemple, oui, par Georges Brecht, par des performances qui est de nettoyer son instrument. Alors voilà, au lieu de le nettoyer, bah, je nettoie ma basse avec mes cheveux ou des trucs comme ça. Et puis après, tout ça ça a un peu évolué. Et puis après, je trouve ça intéressant de mettre le corps, mon corps en tout cas, en jeu dans les performances. Aussi j'aime bien les caricatures, quoi. Donc je me caricature moi-même, je me mets moi-même, oui, en fait, dans des postures, en fait, que je dénonce, en fait. Et voilà, il y a toujours un peu ces espèces de contrastes ou paradoxes, en fait, que j'essaye de mettre en avant, en fait. Et puis voilà, c'est ça qui m'intéresse, quoi.
Alors, moi, tu vas me dire si je me fourvoie, mais il me semble percevoir dans ton propos quelque chose de féministe.
Oui.
Notamment, bah oui, avec cette chanson là dont je me souviens plus,
de Cyndi Lauper.
Cette chanson très populaire.
Ouais, Cyndi Lauper, ouais. Girls just wanna have fun. Ouais.
Voilà.
Bah oui. Bon, c'est d'actualité, hein. Mais il se passe des choses en ce moment, je pense vraiment. Et puis voilà. Puis des fois, il y en a marre. Oui. Alors toutes les réflexions que j'entends. T'es contrebassiste. Ah, dis donc. Mais c'est gros comme instrument. Mais c'est pas trop dur pour toi de le porter. Mais dis donc, ça doit être dur pour en jouer parce que quand même. T'es toute fine, etc. Enfin. Et en fait,
Joël Léandre avec un super morceau, hein,
oui, Taxi. Taxi, bah ouais, 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 bien sûr, ouais. Ouais. Et voilà, et c'est aussi quelque chose que, voilà, je m'en fous, en fait. Enfin, voilà, quoi, je...
Mais tout de même, quel ton... Allez, on a l'occasion d'évoquer ça, est-ce que... j'aimerais savoir ton vécu par rapport à ça, la place des femmes dans ces musiques singulières, expérimentales, improvisées, tu vois, qu'on défend ici, parce que pour nous, c'est porteur de quelque chose de novateur, et de changement, justement, mm-hmm. Tu vois, est-ce que c'est en... est-ce que ce qui se passe réellement est en relation avec le projet, tu vois,
il se passe des choses en ce moment, ça c'est sûr. Je trouve que les choses elles changent, elles bougent. J'en parle beaucoup avec pas mal de musiciens, pas mal de gens, même de manière générale, et on sent oui que les choses elles avancent quoi. Elles avancent, c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Et après j'ai pas trop envie d'en parler parce que je trouve que c'est quelque chose dont je parle pas très bien en plus. Donc voilà, il y a des gens qui travaillent vraiment là-dessus, qui ont vraiment des choses intéressantes à dire, mais moi j'en parle en tout cas. C'est quelque chose dont j'en parle et je pense en effet que je fais passer un message dans mes performances. Mais après voilà, c'est... J'ai pas grand-chose à dire de plus.
Ouais. Oui, t'es pas tenu non plus d'avoir un propos.
Ouais, non, bien sûr.
Je suis entièrement d'accord avec ça. Revenons à la performance. Je voudrais creuser un petit peu ça avec toi. On a la chance avec toi d'avoir quelqu'un qui fait de la performance, qui fait de l'improvisation, qui fait de la composition aussi. C'est pas si souvent. Et moi, la question que je me pose par rapport à la performance, je vois hein, dans ta pièce, je sais pas comment... Est-ce qu'elle a un nom, d'ailleurs, ce...
Celle que t'as vue ouais. Avec Juliette et Donia, c'est... Ouais, The Misfit, peut-être.
Oui.
The Misfit, ouais, on va dire que je l'appelais comme ça, ouais.
C'est... Alors, moi, j'ai vu plusieurs fois. Alors, c'est pas exactement toujours pareil, mais c'est quand même... Il y a quand même une trame. Enfin, c'est... C'est composé, j'ai envie de dire.
Oui,
ouais.
Complètement.
Et justement, ce qui m'étonne, c'est comment, pourquoi la performance ne serait-elle pas improvisée, puisque toi, tu es improvisatrice, par exemple.
Oui, en effet, elle pourrait tout à fait l'être, mais c'est pas comme ça que je travaille.
Et pourquoi ?
Tout simplement parce que... pourquoi ? Mais peut-être parce que j'ai pas assez travaillé ça, en fait. J'ai pas encore assez travaillé, finalement, les performances, ça fait... Je fais des performances depuis 2014, je pense. Et j'ai arrêté pendant un long moment d'en faire, aussi. Enfin, pendant un long moment, pendant 2 ans, quoi, 2-3 ans. Et là, j'en ai refait il y a pas longtemps, en fait. Et ça a pas encore assez... Peut-être hein, que ça n'a pas encore assez mûri et c'est délicat en fait la performance. Je trouve ça plus. Enfin, c'est incomparable. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas comparable à la musique, je sais pas, mais en tout cas.
J'aimais bien la comparaison avec la musique. Moi, notamment, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas. Dans la performance, tu vois, c'est le fait d'agir. Est-ce qu'il n'y a pas la peur de la panne qui n'existe pas en fait dans la musique improvisée ? La musique improvisée, bah, tu vas toujours faire quelque chose.
Oh non, ça pourrait arriver en musique improvisée aussi, hein.
Oui,
je pense.
Ah,
ouais. Mais en effet, je vois un peu ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il peut y avoir des moments peut-être de solitude plus forts quand on est comme ça, là, tout un peu nu sur scène, quoi. Parce qu'en effet, il y a pas de. Mais je pense, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de travailler. Je sais pas si j'ai envie vraiment de faire des performances improvisées, mais. Parce que j'aime bien quand même qu'il y a une trame. J'aime bien la narration. J'aime bien ce que ça crée aussi. J'aime bien essayer de chercher justement les tensions, etc. J'aime bien ça en fait. Et donc voilà. Après, j'ai envie de continuer à travailler et d'aller aussi explorer d'autres lieux quoi dans la performance. Mais peut-être qu'un jour j'en ferai des improvisés. Mais pour l'instant, en fait, c'est pas tout à fait ça qui m'intéresse.
Tu vois ce que j'évoquais, comment tu gères ça, le fait que... Moi j'ai vu 3 fois donc cette performance Misfit. Comment tu gères le fait que les gens qui t'aiment bien, qui aiment bien suivre ce que tu fais, une fois qu'ils l'ont vu, ils savent, pas qu'il n'y a plus de surprise, mais on connaît le déroulement. Comment tu gères ça ?
C'est une bonne question. Oui, les performances changent un petit peu à chaque fois, mais en fait, en effet, la trame elle reste la même. Après, ça dépend aussi où je joue, parce qu'il y a des endroits où je sais que, voilà, les publics changent aussi selon les endroits où je joue. Donc, toi, tu l'as vu 3 fois, mais Je pense qu'il y a peu de gens en fait qui l'ont vu trois fois la même.
Ouais. Après, mais... est-ce que tu vas limiter la durée de vie du truc ? Est-ce qu'il y a
Ah oui, je pense qu'à un moment ça va s'épuiser. Voilà. Et puis même moi, à un moment ça s'épuise parce que en fait, voilà, je suis pas une comédienne, je suis pas une actrice. Donc il y a un moment où je peux pas jouer la surprise quoi, parce que je peux plus. Si ça s'épuise en moi, c'est que ça va s'épuiser tout seul, en effet.
Ouais. Après, il y a un aspect moi, que j'aime bien dans ce truc-là, là, c'est l'humour. J'ai l'impression que tu aimes bien faire rire, ou du moins sourire, ce qui est déjà pas mal. ce qui ne va pas de soi, à mon avis, lorsqu'il est question des musiques qu'on défend ici, des musiques improvisées, des musiques un peu compliquées, on va dire. Enfin bon, j'aime pas parler comme ça, mais... tu vois ce que je veux dire? Quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que c'est une espèce de réaction par rapport au fait que ce soit un peu empesé, un peu trop sérieux parfois?
J'ai eu cette réaction par rapport à la musique classique, justement. Après, moins par rapport aux musiques expérimentales, etc., parce que je trouve qu'elles elles vont chercher dans d'autres endroits. Mais c'est plutôt le côté un peu traditionnel, le côté bourgeois et tout ça qui me voilà quoi, que je trouve vraiment ridicule au bout d'un moment. Et en effet, j'aime bien jouer avec ça, ouais. Ouais, ouais. J'aime bien jouer avec ça. Après, je ne me prétendrai pas...
Tu n'es pas humoriste non plus.
Mais... Ah ouais, non, c'est clair. Mais en effet, j'aime bien les situations absurdes, en fait. Ça me fait rire. Après, bon, si ça fait rire les autres, tant mieux, mais voilà.
Oui, je te garantis que oui, ça nous fait rire. Oui, ça nous fait rire. Mais ce que je voulais évoquer avec toi, c'est justement c'est cette chose qu'on a un petit peu du mal dont on a du mal à parler ici, c'est le fait que ces musiques, pour moi, c'est pas un hasard. Tu pourrais être une humoriste ou une contrebassiste, mais tu fais les deux. Pour moi, c'est pas un hasard. Tu vois ce que je veux dire? T'es dans les deux choses. Et je me demandais s'il y avait une réflexion par rapport à ça, une envie de... Voilà, qu'on n'est pas obligé de se faire chier au concert de musique improvisée.
Oui, oui. Ouais, après... Je sais pas, c'est pas de la provocation
tu peux hein,
par rapport pas, ouais mais non pas. Mais pas vraiment non je sais pas, j'ai pas grand chose à dire de ça en fait, je sais pas.
Alors quand on te propose de jouer, comme c'est notre cas, tu sais que tu es la première invitée qu'on reçoit et dont on peut dire elle nous fait le plaisir de venir jouer au festival Les Oreilles Libres.
Ah ouais, merci.
Qui aura lieu le 15 et 16 juin. Merci beaucoup, Félicie.
Merci à toi pour l'invitation et puis il y a une belle programmation en plus.
Et alors, ce que je me demande, c'est quand on te fait une proposition comme ça, tu fais ce que tu veux, Félicie. Comment tu décides de faire une performance ou une composition, une improvisation. Comment tu détermines ça?
Alors, comme toi, par exemple, tu m'as dit vraiment que je faisais ce que je voulais, parce que des fois, on me demande des choses particulières. Par exemple, Joël Pagy m'a invité au Festival Pieds Nus, au Havre,
ouais.
Et il m'a demandé de jouer les pièces de Bertrand Denzler. Donc, je l'ai appelé, j'ai vu avec lui, j'ai fait le programme avec lui, disons. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi. Mais là, en effet, c'est un peu selon ce que je suis en train de travailler à ce moment-là. Je regarde aussi un petit peu dans la programmation, qu'est-ce qui se passe, qui joue, ou je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer. Et voilà, j'essaye de chercher un peu des pertinences par rapport à ça, quoi. Et puis c'est aussi vraiment par rapport à ce que je travaille en ce moment et les choses qui m'intéressent plus particulièrement. Ouais.
Qu'est-ce que tu dirais d'écouter un petit peu de musique, là, notamment une composition de Pierre-Antoine Badaroux?
Ah oui, alors ça c'est une pièce qui l'a composée pour moi. Il y a eu un dispositif particulier pour cette pièce que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment en résonance avec justement ma découverte de Fluxus et tout ça. Il a composé cette pièce en 2012. Et voilà, la composition numéro 15.
Voilà, on écoute.
Mmh.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde. Radio-libertaire.net, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec aujourd'hui Félicie Bazeler. Alors Félicie, tu voulais nous dire peut-être quelques mots sur les compositions.
Ah oui, bah, en tout cas sur ce qu'on vient d'entendre, la composition numéro 15. Ouais. Et voilà, en fait, par rapport justement à mes études classiques, etc., ouais. En fait, Pierre-Antoine m'a proposé quelque chose, c'est de m'enregistrer. En fait, j'avais un petit enregistreur, enfin avec un patch, et en fait, j'allumais mon ordi pendant que je travaillais, mais vraiment que je travaillais mes pièces de Bottesini, etc., Sperger et tout ça. Ouais. Et j'étais enregistrée de manière aléatoire, donc des petites bribes de de 2 à 5 secondes peut-être. Donc d'une part il y avait ça, et puis d'une autre part Pierre-Antoine s'est enregistré aussi chez lui de la même manière, de manière aléatoire comme ça pendant peut-être un mois. Donc il y a pareil des petits extraits en fait, d'ailleurs on l'entend dans la musique, il y a des extraits de, on entend un peu chez lui, à un moment il tape à la machine, à un moment il parle, on entend une soirée aussi, on entend aussi la musique qu'il écoute. Et donc après il a retranscrit moi l'enregistrement qu'il a fait de mon travail, et donc en une espèce de partition un petit peu, et c'est pour ça en fait qu'on entend plein de choses dans cette pièce. On entend à la fois un petit peu l'intimité un petit peu du compositeur, et aussi une forme d'intimité aussi de mon travail, parce que le travail c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne montre pas en fait en tant que musicien en fait. On montre jamais que ce qu'on fait quand on est tout seul chez soi avec son instrument, d'une certaine manière. Oui, et là, cette composition le montre un petit peu, quoi. Et voilà, et c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est de coller aussi l'interprète et le compositeur, et d'avoir la bande et l'interprète qui joue par-dessus, mais qui joue ce qu'il a lui-même travaillé. Enfin, j'aimais bien cette idée, comme ça, un peu en puzzle. Voilà.
Alors, ouais, c'est super. Tu vois, Félicie, j'ai l'impression que tu fais pas mal de... on te voit souvent assez régulièrement en concert, mais j'ai pas l'impression que tu multiplies ce qu'on appelle les one-shots, les rencontres.
Mm-hmm.
Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, c'est vrai.
On va parler de ton trio avec Léo Duplex et Taku Sugimoto. Mais j'ai pas l'impression... Je me suis dit ça en préparant l'émission, je me suis dit, mais Félicie, on la voit pas... jouer avec les uns et les autres comme une improvisatrice, comme d'autres, quoi.
Mm-hmm. C'est vrai.
Comment t'expliques ça, quoi ?
Ça m'arrive de faire des rencontres, ouais, rarement, c'est vrai. Parce que... je sais pas, j'aime bien travailler, en fait. J'aime bien avoir le temps, en fait, de rencontrer vraiment... un musicien ou plusieurs et une musicienne, et de travailler, d'élaborer quelque chose ensemble. J'aime bien prendre ce temps-là, en fait. Et parfois, j'ai fait des rencontres qui étaient très, très belles, hein, aussi, mais voilà, je m'intéresse un peu plus aux rencontres travaillées, peut-être.
Eh ben, on s'en plaint pas.
Mmh.
On s'en plaint pas ici. Et bon, alors, est-ce que tu peux justement parler de ce trio avec lequel tu as fait... vous avez fait une tournée récemment,
ouais,
avec Léo Duplex et Taku Sugimoto.
Oui.
Comment ça s'est formé ?
Alors, en fait, c'est Léo Duplex, donc il y a un musicien avec qui je travaille depuis maintenant peut-être bien plus d'un an ou deux même. Et donc, Léo connaît depuis un certain temps Léo Taku Sugimoto. Et donc, moi, j'ai organisé des concerts dans un lieu qui s'appelait les 26 chaises, enfin qui s'appelle toujours les 26 chaises, d'ailleurs, c'est pas fini. Mais voilà, j'ai eu des périodes où j'organisais beaucoup de concerts dans cet endroit. Et un jour, Léo m'a dit, voilà, Taku Sugimoto vient à Paris avec Minami Saeki, une chanteuse. Et il m'a proposé que j'organise ce concert. Et donc Léo s'est dit, ah mais c'est l'occasion aussi pour qu'on joue ensemble, parce qu'on n'avait jamais joué ensemble avec Léo. Et ça faisait un moment qu'on se disait qu'on aimerait bien faire quelque chose. Et donc il a proposé à Bertrand Denzler qu'on joue une pièce de Taku Sugimoto. Donc il y a eu une première partie avec le duo de Taku et Minami, et nous, avec Bertrand et Léo, on a joué en deuxième partie. Et donc là, moi j'ai rencontré Taku, et donc on a bien aimé. Moi j'ai beaucoup aimé sa pièce, j'ai beaucoup aimé son concert, etc. Enfin, et du coup, quand Taku est revenu à Paris quelques mois plus tard, Léo a proposé qu'on joue en trio tous les trois, et on a joué une pièce de Taku Sugimoto. Et ensuite on a fait une improvisation, et puis suite à ça on s'est dit mais ça serait intéressant en fait d'approfondir et puis de continuer. Léo avait des idées de composition pour nous trois, etc. Et donc voilà, donc on a commencé à organiser une tournée, et en fait en effet on a fait une tournée assez assez énorme qui a duré 3 semaines avec 15 concerts. On a fait 10 500 km, enfin bon, voilà. Oh. Et c'était une expérience très 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 enrichissante, intéressante. On a donné des bons concerts, on a rencontré plein de gens super, ouais, c'était vraiment vraiment chouette, quoi.
Oui, et de la France, hein, je pense, hein, vous êtes allé.
Alors en France, en Espagne, en Suisse, en Autriche, en Slovénie, en Allemagne, en Belgique, en France, ouais. Et puis ensuite à Helsinki et à Stockholm.
Bah, ouais. Ouais. Et c'est pas mal. Et donc tu confirmes que c'est de la musique. Alors je sais pas si c'est composé, mais au...
Oui, c'est alors. Oui, en fait, on a joué des compositions de Taku Sugimoto, une composition de Léo Duplex et une de mes compositions. Et puis, on a aussi improvisé. Ouais, ça nous est arrivé d'improviser. Et puis aussi, pendant la tournée, on a rencontré... on a joué avec Derek Shirley à Berlin. On a joué avec Willem Bromander à Stockholm et avec Lauri Verinen à Helsinki. Ouais. Mais en effet, c'était plutôt des compositions. Et... voilà, mais c'est toujours des formes très ouvertes, hein. Mais c'était plutôt des compositions. Ouais.
Alors, Léo, on l'a reçu, tu sais, pour son trio Vierge Noire.
Vierge Noire, ouais.
Et donc, les auditeurs attentifs savent que Léo Duplex joue avec principalement des objets, mm-hmm. tu vois. Et je voudrais savoir si toi-même, est-ce que tu es intéressé par ce qu'on appelle le jeu étendu, à savoir jouer de ta contrebasse ou du violoncelle avec des objets ou de l'électronique.
Alors non. Pas du tout. Quand je joue de la contrebasse ou même du violoncelle, j'utilise vraiment la contrebasse et mon archet ou mes mains ou mais rien d'autre. Non, ça c'est pas. Je trouve que c'est très intéressant quand j'entends d'autres contrebassistes qui le font ou d'autres musiciens même de manière générale. Je trouve ça toujours très intéressant. Mais alors moi ça. Ça, non, ça vient pas. Enfin, je n'en ressens pas du tout la nécessité, en fait.
Bon, on va pas t'en tenir rigueur.
Ok.
Qu'est-ce que tu dirais d'écouter ? Alors, c'est. Comment ça s'appelle ?
Ah, ben le trio, peut-être ?
Oui, oui, oui.
La pièce que j'avais composée, c'est Au milieu de la nuit. Voilà.
Et on va écouter Au milieu de la nuit, au plein milieu de la journée.
Voilà, par Léo Duplex et Taku Sugimoto, et moi-même.
Thank you.
Alors, Félicie Basler, il nous reste 10 minutes, mais tu vois, c'est le,
là là là
c'est
là,
le truc classique. Hein, on n'aura pas le temps de parler de tout. Je voulais te parler de Système Friche, je voulais
oui,
te parler de,
bah oui, oui, oui.
De l'organisation ouais. des concerts 26 chaises. Bon, bah, bon. Je préfère te parler de Zoller.
Zoller, ouais.
Est-ce que tu peux nous parler de cette formation-là?
Alors, Zoller, c'est un duo que j'ai avec Bertrand Denzler. Et voilà, on a beaucoup travaillé ensemble avec Bertrand par rapport aux compositions justement qu'il m'a écrites. Et puis on a joué un petit peu ensemble. Et puis je lui ai proposé en fait justement une sorte de composition, enfin qui était plutôt un canevas. Et je lui ai fait une proposition et puis il a rebondi, etc. Et voilà, on a créé Zoller ensemble, quoi. C'est en fait c'est une composition, on peut dire.
Okay,
Zoller. Oui, ouais. Ouais, c'est très ouvert, mais c'est quand même une composition.
Alors, voilà. Je voulais savoir aussi, est-ce que tu as des disques qui sont sortis? Est-ce que tu es quelqu'un qui enregistre des disques? Est-ce que tu as des disques ouais. qui sont sortis ou apparaître?
Oui, et ben alors les compositions donc de Bertrand justement sont sorties. C'est un album qui s'appelle Basse Seule. C'est sorti sous le label Confront Recordings, un label anglais. Et puis récemment, il y a aussi L'épaisseur innombrable, une pièce de Dincise, qui est sortie sous le label Albertine Édition. C'est le label de Léo Duplex. Et pour cette pièce. En fait, Léo a fait plus que juste m'enregistrer et sortir le disque. On a vraiment travaillé ensemble. Et c'était super de travailler ça avec lui. C'était vraiment intéressant.
Tu veux dire, il y a un travail de production
ouais. 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 Oui, voilà, tout à fait. Parce que c'est une pièce qui n'est pas évidente, en fait. Elle est à la fois très concrète et très floue. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé sur cette pièce. Et voilà, Léo m'a aidé à vraiment la... Elle a finalisé, quoi. Donc ça, c'était un travail vraiment en collaboration. Donc Albertine Édition, ouais. Oh, et puis ensuite, il y a aussi, sous le label Potlatch, il y a deux pièces de Bertrand Denzler pour Co, justement pour l'ensemble de cordes qui vont sortir, je sais pas exactement quand encore, mais c'est en cours. Oh,
super.
Voilà.
Super. Bon, on écoute un peu de musique, on écoute Zoller.
Oui, Zoller, ça marche.
Thank you.
Félicie, notre émission va s'achever, va se terminer. Notre ami Ulysse se prépare. Il est dans les starting blocks pour nous parler de Rimbaud. Hein. Ah, et mais j'avais une question.
Alors attends, je voulais juste dire avec Zoller, on va jouer le 19 mai, dimanche 19 mai à 19h30 au 26 chaises, avec aussi le duo Nami Otto, avec Juliette Meyer et Yves Arquès.
Super, voilà. Super. Et tu as d'autres... Ah oui, je voulais te demander les 26 chaises. Tu continues ça, ouais.
Alors, oui. Enfin, ça continue. J'ai eu besoin de faire une pause parce que j'avais organisé vraiment énormément de concerts, en cet automne. Et voilà, mais bien sûr, c'est un lieu de toute façon qui est ouvert et voilà. Et si j'ai le temps, je continuerai à organiser des concerts, ouais, avec plaisir. Ouais.
Mais pourquoi, en fait, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce que tu tends à promouvoir?
En fait, ça me plaît de... J'aime bien organiser des concerts, j'aime bien accueillir des artistes, j'aime bien...
Et ce que je veux dire, il y a une idée, il y a une, comment dire, une direction esthétique, artistique, je ne sais quoi.
Une direction artistique... peut-être un peu. C'est plutôt vraiment des petites formes acoustiques. Bien que certains parfois jouent amplifiés, mais c'est plutôt pour des musiques vraiment très intimistes, étant donné que le lieu est tout petit aussi, c'est vraiment pour genre de forme.
Et je te remercie parce que tu nous as permis de découvrir d'autres artistes qu'on a invités ici, enfin bon bref. Il nous reste très peu de temps, je voulais que peut-être tu vas nous dire un mot de ce qu'on va écouter, à savoir Beat the Odds.
Oui, c'est le projet de Pascal Nigenkamper, donc qui est contrebassiste franco-allemand, et donc dans lequel j'ai le plaisir de jouer aussi de la contrebasse, avec aussi Elisabeth Koudou au violoncelle et Ricardo Jacinto au violoncelle. Et en fait, c'est un projet assez particulier parce qu'on a tous les quatre, en fait, Pascal Nigenkamper a fabriqué des espèces de petits moteurs à hélice qu'on met sous le chevalet et en fait qui viennent taper les cordes. Et on a une pédale de vitesse pour faire aller l'hélice plus ou moins lentement. Et on a également un système d'amplification avec des petits amplis guitare, un petit peu avec de la disto et ce genre de trucs. Et en général, on est aussi amplifié. Et en fait, on joue en quadriphonie. En fait, on joue tous les face à face. Et on improvise et des fois, on joue aussi des compositions. Et donc là, je pense que ce qu'on va écouter, c'est une improvisation qu'on a fait à l'église Sainte-Hélène à Bonn. Et c'était au printemps dernier ou l'année dernière.
D'accord.
On va dire l'année dernière.
D'accord. Ben, voilà. On va se quitter avec ça. Est-ce que tu as des projets, des idées de formation, de concerts, de je ne sais pas quoi, des projets, comme on dit, dans le milieu culturel?
Oui, j'ai pas mal de choses à venir, notamment je vais commencer une résidence avec Frédéric Poujard, qui est conteur, lecteur, comédien, et Renaud Collet, aussi un musicien rémois, sur un texte de Pascal Adam. Et puis plein d'autres choses, une rencontre avec Angelica Castello aussi cet été, et puis... Et voilà, pas mal de choses, ouais.
Et puis, nous aurons le plaisir de t'accueillir dans le festival Les Oreilles Libres, le 16, je crois.
Ouais, 16 juin.
Dimanche 16 juin, ouais. Au Théâtre Thénardier à Montreuil. On en reparlera abondamment dans notre émission. Merci infiniment à
merci
toi.
Merci beaucoup, Christophe.
Merci beaucoup d'être venu. Et puis, merci de ta gentillesse et merci de tout ce que tu fais. En fait.
Bah.
On va laisser la...
Pour l'émission, c'est super que ça existe.
C'est gentil.
Ouais.
On va laisser la place à notre grandissime Ulysse. De quoi vas-tu nous parler, Ulysse? Quel micro as-tu d'ailleurs?
Alors, j'ai le noir qui est en bout de table.
Alors, je vais vous parler de Rimbaud, de sa vie, de ses passions, de ses rencontres et de sa fin tragique. Qui l'a mené peut-être dans les plus hautes sphères de l'esprit, mais dont la chute a été assez tragique. Voilà, ça sera un aperçu de la vie de Rimbaud, et évidemment commenté, et puis aussi des textes de poétique qu'on va lire, notamment des extraits d'Une saison d'enfer, l'album Zutik, Les mains de Jeanne-Marie, et puis si on a le temps, on parlera aussi de La Commune. ce mirage.
Merci Ulysse, hein, d'évoquer la commune. Merci à toi Félicie. Et
merci.
Puis on se quitte avec Beat the Odds et à bientôt. Salut.
Bye bye.